Bonjour guérisseuse de mon cœur, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Guérisseuse en action, avec aujourd'hui une question pour toi. Peut-on pleurer en thérapie quand c'est nous le thérapeute? C'est une question qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai commencé à exercer en tant que psychanalyste, parce que je me sentais extrêmement touchée par les récits qu'on me confiait et très souvent, j'avais les larmes aux yeux. Et j'étais dans une lutte intérieure pour ne pas laisser ce réservoir de larmes déborder parce que j'avais cette idée que si je me mettais à pleurer, ça allait, entre guillemets, enfoncer l'autre. Donc c'est des questions que je me suis beaucoup posées, des espaces que j'ai visités. Et aujourd'hui, j'accompagne et je forme des thérapeutes. Et cette question, elle revient très souvent, celle de dire « Mon Dieu, mais je suis tellement sensible, dès que je vois quelqu'un pleurer, je pleure. Comment est-ce que je vais pouvoir exercer ce métier de thérapeute? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que je ne suis pas trop faible? Est-ce que je ne suis pas trop vulnérable, trop fragile ?» Et c'est pour ça, je sens que c'est un point de douleur pour beaucoup de guérisseuses, d'accompagnatrices, de magiciennes, de thérapeutes. Et c'est pour ça que j'ai eu envie aujourd'hui, en toute simplicité, de partager mon expérience autour de ces fameuses larmes dans l'espace thérapeutique. Moi, je me suis aperçue avec le temps que j'étais partie d'une posture très sérieuse. J'étais la psychanalyste et dans mon esprit, et tel qu'on me l'avait enseigné, le psychanalyste devait offrir un visage neutre, impassible, la fameuse neutralité bienveillante dont j'ai déjà eu l'occasion de te parler dans d'autres épisodes du podcast et qui m'a donné tant de fils à retordre. Parce que dans mon cas, je sentais que j'étais dans une posture de blocage. De blocage de ma sensibilité, blocage de ma spontanéité, et c'était aussi valable au niveau émotionnel. Je bloquais ces larmes qui montaient, et en fait, plus je les bloquais, plus je me sentais comme une forteresse assaillie, et plus ça me demandait d'efforts pour les contenir, et forcément, moins j'ai été connectée à l'autre de cœur à cœur. J'étais dans une espèce de démarche de « non, je ne veux pas trop en entendre ». Bien sûr, c'était énergétique et subtil, hein, c'est pas ce que je disais, mais dans mon corps, c'est ce que je manifestais. Et si tu es sensible ou même hypersensible, je pense que tu vois de quoi je parle, là, cette espèce de lutte intérieure quand tu sens que vraiment il y a un flot d'amour, de compassion qui te déborde et qui va sortir par les yeux. Et peut-être que tu as déjà connu cet effort pour contenir les larmes. Alors on va voir ensemble, c'est quoi le problème? Déjà, les larmes, c'est quoi? Les larmes, c'est une petite partie de l'expression émotionnelle, on va dire. Les larmes en elles-mêmes ont une fonction extrêmement précieuse, une fonction notamment de nettoyage. Ces larmes, en fait, elles sont le témoin de ta vie émotionnelle interne. Manifester nos émotions, c'est pas toujours bien vu. Mais c'est sain et c'est naturel. Il y a notamment des courants de santé qui s'appellent, notamment un courant de santé qui s'appelle l'hygiène émotionnelle, qui consiste à extérioriser ces émotions au fur et à mesure qu'elles arrivent en les exagérant, enfin en tout cas en leur rendant leur place, un peu comme le ferait un petit enfant par exemple, qui lui ne va pas garder les émotions, il va les évacuer de façon parfois bruyante et spontanée. Et en fait ça c'est quelque chose de sain qu'on nous apprend ensuite à inhiber. Et cette inhibition par contre elle est plutôt délétère pour notre corps en général et pour notre système émotionnel parce que ce qui ne peut pas s'exprimer par les émotions va trouver d'autres canaux pour s'exprimer et ça peut être par exemple à travers des douleurs, des pathologies corporelles. Donc les émotions en fait, elles sont plutôt mal vues et pourtant on a tellement besoin d'elles parce que ce sont aussi elles qui nous mettent en mouvement. Émotion, ça vient du latin emovere qui signifie mettre en mouvement. Et quand on est thérapeute, ressentir des émotions, et les exprimer, c'est la preuve qu'on est vivant. C'est la preuve qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui respire, qui est en mouvement. C'est aussi le signal qu'il y a quelque chose qui écoute au-delà de nos oreilles et de notre tête et qu'on est présent avec tout notre être, avec tout notre corps. Alors, il se trouve que moi, je suis thérapeute florale, donc je travaille avec les élixirs floraux. Et l'indication première des élixirs floraux, ce sont les souffrances émotionnelles. On travaille avec les émotions, c'est notre matière première. Si celui qui est en face de nous ne parvient pas à verbaliser ses émotions, on se retrouve bien embêté. C'est notre matériau. Il y a d'autres thérapies qui vont travailler plus avec les signaux du corps. Je pense à des thérapies plus physiques, ostéo, qui vont vraiment écouter le corps. D'autres thérapies qui vont écouter les mots. C'était le cas de la psychanalyse notamment, qui est une thérapie très mentale. Avec les fleurs de Bac, on écoute les émotions. Donc forcément, quand on est dans ce champ thérapeutique et qu'on écoute les émotions, en général, on entend des émotions et donc c'est un format de thérapie où on va être particulièrement en prise avec nos émotions et avec celles de ceux qui viennent nous voir. Un cabinet de thérapie florale, c'est l'espace où les émotions, l'espace par excellence où les émotions sont bienvenues. Donc en fait, il faut faire avec. Alors, moi, j'entends pas mal de thérapeutes qui se disent « Mais ça craint si je me mets à pleurer en plein milieu de la séance. C'est un peu comme si je me noyais avec l'autre, ça va l'enfoncer. Peut-être qu'il va se dire « Mon Dieu, mon cas est tellement désespéré que je fais même pleurer ma thérapeute. » Il y a vraiment beaucoup de peur. Il y a encore cette croyance que pleurer, c'est être fragile, être faible, ne pas être solide. Et moi, c'est vraiment une croyance que j'ai eue très très longtemps. Il faut savoir que j'ai quand même mis à peu près 5 ans à pleurer en tant que patiente pendant ma psychanalyse parce que j'avais profondément engrammé en moi cette croyance qu'il ne fallait pas pleurer, il fallait être forte. Alors, je savais bien pourtant que c'était l'espace pour le faire, mais il y avait quelque chose qui se rejouait de mon histoire où je contenais absolument tout. Donc, tu vois, je viens de très très loin en termes d'expression des émotions. Et pourtant, mon métier de thérapeute m'a amenée à vraiment vivre des expériences souvent inconfortables dans ce registre-là et surtout m'a amené à évoluer. Donc la première chose que j'aimerais te partager, c'est qu'il y a une différence entre des larmes qui te concernent toi ou des larmes d'empathie. Des larmes qui te concernent toi, c'est par exemple s'il y a un mouvement de tristesse profond qui émane de l'intérieur de toi et qui va s'exprimer avec des larmes qui ont justement cette fonction de nettoyage, qui sont les véhicules de ces émotions qui ont besoin de se libérer. Donc ça, c'est une chose, de pleurer parce que tu es dans ton propre mouvement de transformation par la tristesse. Et c'est complètement OK. Par contre, c'est moins OK de le vivre dans un espace thérapeutique qui est ouvert pour quelqu'un d'autre. Et les larmes d'empathie, ça va plutôt être quand tu vis l'histoire avec celui qui te le raconte, que tu ressens sa détresse et que tu pleures avec lui. C'est très différent. Les larmes qui nous concernent, nous, qui concernent nos processus, c'est très rare qu'elles s'invitent dans l'espace thérapeutique de quelqu'un d'autre. Et si c'est le cas, je t'invite à toi, en tant que thérapeute, à réouvrir un espace avec un autre thérapeute qui pourra t'accompagner pour explorer tout ça et que tu aies toi-même des espaces pour pleurer. Mais dans ce que j'observe, c'est très rare que ces larmes-là s'invitent pendant des séances où toi, tu es dans la posture de thérapeute. On est vraiment plus souvent dans la deuxième configuration de larmes d'empathie. Et là encore, il y a deux situations que j'aimerais distinguer, que j'ai vraiment observées et qui sont très différentes. Les premières larmes vont être des larmes de compassion. C'est-à-dire, on va pleurer avec lui parce qu'il se met à pleurer avec lui ou avec elle. Ça va te concerner si tu es du genre à pleurer comme une madeleine à la fin des films parce qu'il se passe quelque chose de touchant. Donc ça peut tout à fait être ça. Tu suis le mouvement, tu accompagnes le mouvement. Donc ça arrive très couramment. Et la deuxième chose, c'est ce que j'appelle les émotions diffractées. Alors les émotions diffractées, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire que la personne qui est en face de toi va être coupée de ses émotions. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir te raconter des choses absolument terribles sur un ton extrêmement détaché, sans rien ressentir, de façon très factuelle, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Et elle va juste décrire la scène comme si elle n'avait pas accès à ses émotions. Ça, c'est extrêmement courant quand il y a eu un trauma et que la personne se souvient des faits, mais a éjecté les émotions de son champ de conscience parce que c'est trop douloureux. Ok? Et là, ce qui peut arriver, en tout cas moi, ce qui m'est arrivé assez souvent, c'est qu'on va être amené à ressentir à sa place. C'est quelque chose qui se met en place de façon totalement inconsciente, mais en fait, c'est un peu comme la lumière qui est diffractée dans certaines conditions en physique, c'est-à-dire qui part sur les côtés au lieu d'aller tout droit, c'est-à-dire au lieu de l'émotion, au lieu d'être exprimée par celui qui a vécu l'événement, elle va être diffractée par les côtés. Et toi, tu vas pouvoir servir de toile de projection à cette diffraction. Et avec tout ton corps et avec ton système émotionnel, tu vas pouvoir être traversé par cette émotion que l'autre n'est pas capable de ressentir. Alors ça, il vaut mieux être prévenu à l'avance. Parce que moi, quand j'ai commencé en tant que psy, personne ne m'avait raconté ça. Ce phénomène de diffraction, je l'ai découvert par la suite en recherchant qu'est-ce qui se passait et pourquoi la personne en face de moi a été hyper en apparence tranquille et détachée, et pourquoi moi j'étais tellement remuée avec parfois des maux de ventre, des choses hyper intenses qui se passaient dans mon corps. Et quand j'ai compris ce phénomène de diffraction, ça m'a énormément aidée parce que j'ai pu aller au bout du processus. Et quand on ressent ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un en face de nous nous raconte des choses absolument épouvantables et qu'il ne ressent rien en apparence, qu'il ne manifeste rien sur un plan émotionnel, on va pouvoir agir. On va pouvoir agir en connaissance de cause en disant, ok, là, il se passe des trucs en moi, donc là, je pense qu'il est en train de, l'émotion est en train d'être diffractée, donc je vais d'abord avertir, dire ok, là, je vois que vous me racontez ça sur un ton extrêmement détaché, moi, je sens que ça me fait quelque chose. Alors, je vais prendre un temps pour écouter ce que ça me fait à l'intérieur de moi. Et on peut verbaliser. On peut dire, bon ben voilà, écoutez, là, ce que vous me dites, moi, ça me met très, très en colère, par exemple. Je suis vraiment furieuse que vous ayez pu vivre ça en étant enfant, que personne ne vous ait protégé, par exemple. Tu peux dire ça si c'est de la colère. Ou si tu te sens vraiment touchée dans ton cœur et qu'il y a des larmes qui viennent, tu peux dire, ben, ça me rend triste que vous ayez eu cette expérience de vie. En fait, l'idée, c'est de dire vraiment ce que toi, tu ressens. Vu que lui ne sait pas le faire, tu vas avoir une fonction maternelle. La fonction maternelle, en fait, avec le petit enfant, la maman va métaboliser les émotions. C'est-à-dire qu'elle va recevoir les émotions brutes de l'enfant qu'il ne sait pas traiter et elle va les verbaliser. Par exemple, elle va dire à un enfant qui fait une crise, tu es en colère parce que ci, parce que ça. Donc là, c'est exactement pareil en thérapie. On va pouvoir se laisser traverser et verbaliser. Moi, les fois où je l'ai fait, très souvent, la personne s'arrête net, elle me regarde, et c'est un temps de prise de conscience. Et elle s'arrête net dans son discours lisse. Et parfois, ça suffit à la reconnecter à ses émotions. D'autres fois, ça ne suffit pas. D'autres fois, la verbalisation ne suffit pas. Et encore une fois, tout ça, ce n'est pas des choses qu'on m'avait expliquées, c'est des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure que j'étais traversée par ces phénomènes inconfortables, en fait. Et j'avais envie de te partager une expérience où, pour le coup, j'ai vraiment pleuré en tant que thérapeute et où ça a eu un effet vraiment extrêmement bénéfique pour la transformation et pour l'évolution de la jeune femme qui était en face de moi. Alors, la verbalisation ne suffisait pas avec cette jeune femme. Elle avait vécu une enfance extrêmement traumatique Et à l'âge adulte, un événement qui avait failli lui coûter la vie, une agression vraiment très violente, qu'elle me racontait. Elle est venue me voir pour ça parce qu'on lui a dit, dans tout le processus judiciaire qui a suivi, on lui a dit de se faire suivre par un psy. Donc elle est venue me voir pour ça et elle me racontait ce qu'elle appelait son accident. C'était pas un accident, hein, c'était une tentative de meurtre, hein, donc c'était pas un accident. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle arrivait à le nommer. Elle pouvait pas utiliser un mot plus fort que ça. Et elle me le racontait assez régulièrement, mais c'était toujours sur un ton extrêmement détaché, comme quelqu'un qui aurait vu la scène de l'extérieur. Parfois, elle rigolait un peu, puis après, elle m'a raconté un petit bout, et puis elle partait sur autre chose de beaucoup plus léger, sur sa soirée de la veille. Voilà, les émotions étaient tenues à grande distance. Et on a avancé comme ça pendant un moment, et j'essayais de lui dire, écoutez, là, ce que vous me dites, moi, ça me touche, j'ai besoin de temps pour l'accueillir. C'est ce qui est arrivé, c'est grave. C'est grave, celui qui vous a fait ça doit être jugé. Parce qu'il y avait tout un enjeu autour du procès aussi. Et c'est comme si mes mots ricochaient sur elle. Je sentais que ça ne la pénétrait pas, ça ne la traversait pas. Bon. Et puis, après plusieurs mois, voire même plusieurs années, un jour, j'ai senti que les accès commençaient à s'ouvrir. Je sentais que vraiment la relation, l'alliance thérapeutique était très bien installée. Et ce jour-là, elle était sur le divan. Ça, c'était un dispositif classique en psychanalyse. C'était de proposer à mes patients de s'allonger, de se mettre dans un état de relaxation. Et dans cet état de relaxation, il y a des souvenirs traumatiques qui remontent. Il y a des souvenirs traumatiques qui remontent. Et depuis ces souvenirs traumatiques, ce jour-là, j'étais à côté d'elle et j'ai senti que je pouvais vraiment y aller avec elle. C'est-à-dire qu'elle me racontait son histoire. Et je me sentais vraiment, vraiment profondément touchée. J'étais avec elle. C'est comme si j'étais à ses côtés pendant qu'elle revivait la scène. Et cette fois-là, elle avait les yeux fermés. Et donc, j'ai senti que je pouvais me laisser aller au bout de mon émotion, qui était une émotion de tristesse, et à laisser franchement, sans retenue, couler mes larmes. Alors, c'était sans bruit, hein, c'était discret. Et elle avait les yeux fermés, donc je pense qu'elle ne percevait pas ce que j'étais en train de vivre. Et pourtant, elle a senti. Elle a senti, elle m'a dit « mais je sens que vous pleurez ». Et c'est à ce moment-là que les larmes ont commencé à couler aussi sur ses joues. C'est comme si en acceptant d'y aller avec mon corps, sans retenue, je l'avais guidée, je lui avais ouvert la voie pour accueillir ce flot émotionnel. Parce qu'elle n'y allait pas toute seule, on y allait toutes les deux. C'était un instant extrêmement fort, un moment de guérison extrêmement puissant. Vraiment quelque chose, un instant de grâce, de se sentir, de se mutuellement et de voir que toutes les deux, on pouvait y aller et qu'on pouvait toutes les deux, ensemble, traverser ce moment et en ressortir intègre, vivante. Ça, c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs en tant que thérapeute. Et tu vois que dans ce cas-là, pleurer en tant que thérapeute, ça avait vraiment pleinement tout son sens. Alors, je ne suis pas en train de te dire que c'est une bonne idée de pleurer du début à la fin de toutes tes séances. Je veux simplement te dire que Un thérapeute, il travaille, il œuvre depuis tout son être et ça inclut ses émotions. Et plus on les accueille, moins on les bloque et plus elles vont circuler et plus elles vont guider l'autre, celui qui est en face, pour que lui aussi soit de plus en plus familier et fasse aussi alliance avec ses émotions. Ce qui est aussi envisageable, si vraiment tu as, au début de ta pratique, tu as peur de vraiment qu'il y ait trop de larmes, trop de fois les larmes aux yeux, tu peux aussi expliquer que tes larmes à toi, elles ont une fonction de nettoyage. Et que quand tes larmes coulent, en écoutant l'autre, c'est pas que tu es triste, mais c'est que tu mets ton corps participe au nettoyage de l'autre personne. Il y a un exemple, une analogie que tu peux prendre. Par exemple, quand on fait des soins chamaniques avec un chaman, c'est très courant qu'il rote. Et c'est assez impressionnant au début, c'est rauque, sonore. Et en fait, c'est-à-dire que c'est lui qui transmute. Il transmute avec les rauques, il transmute à notre place. Mais je pense qu'on peut vivre et expliquer quelque chose de similaire aussi avec les larmes. Si tu sens que vraiment, tu as trop peur que ça déborde, tu peux poser ça. Tu peux dire, ben voilà, mes larmes, c'est pas mes larmes pour moi, c'est des larmes pour vous. Elles nettoient à votre place, ne vous inquiétez pas, elles font partie du processus. C'est la matérialisation des émotions difficiles qui sont en train de se dissoudre. Voilà, tu peux aussi tout à fait le faire comme ça. Donc tu vois, la sensibilité, le fait de pleurer facilement, c'est absolument pas un frein pour être thérapeute. J'ai envie de dire au contraire, la sensibilité de façon générale, pour moi, c'est un super pouvoir quand on est thérapeute parce que ça permet d'aller à un niveau de profondeur magnifique et ça permet aussi d'aller bien au-delà du mental. Donc si c'est ton cas, vraiment, je t'invite à faire alliance avec ta sensibilité, à donner une place éventuellement à ces larmes qui s'invitent, parce que ça va vraiment faire, ça va participer à ta singularité en tant que thérapeute et ça va nourrir profondément, à mon avis, ton espace thérapeutique. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'aurai encore plein de choses à dire évidemment sur la sensibilité du thérapeute. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et si tu as envie d'en savoir plus sur la façon dont j'accompagne les thérapeutes pour les aider à œuvrer avec leur essence, depuis qui ils sont et depuis tout leur être, depuis toute leur part, même les parts qui pleurent, eh bien, je t'invite à regarder ce que je propose dans le cadre de la formation pro Médite en fleurs. Tu trouveras plus de détails sur mon site méditeenfleurs.com et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Guérisseuse en action.